كارير مانجمنت.
اهلا وسهلا، شكرا لكم على الاستماع. كارير مانجمنت حتى الماضي 3:30، انتم على اكسبريس اف ام، تسمعونا على 103.4 على راديو اكسبريس اف ام بوينت كوم. معي برهان في الاخراج، معي عائشه في الاخراج الرقمي. واليوم في كارير مانجمنت كما كنا الخميس نحكيوا على موضوع مهم برشا، باش نحكيوا على موضوع يمكن ماشيين ونبعدوا عليه بما انه تو نستعملوا في الميديا سوسيو ونستعملوا في الايميلينغ وغيره، ولكن فقدنا بشويه بشويه هك المهاره نتاع الكتابه، ولينا نلقاو دي ايميل ماهمش مكتوبين بالكدا، والا زاد دي رابور اللي ساعات نستحقوهم في الشركات ما همش بالقدي بالقدي، وهذا يمكن إلي ديو البرشة مشاكل ومشكلة متاع باجاج وكابولير برشة حاجات، هذا كله باش نكتشفوه. خاطر اليوم باش نحكيو على ليزيكري بروفيسيونيل افيسيون افيك دكتور انليز انيفينكل، هي دكتور ان سوسيولوجي. اليوم الحوار باش يكون باللغة الفرنسوية، اما هي تحكي شوية بالعربي بما انها فورماتريس وتجي تخدم في تونس. مرحبا انليز، بيانفونو سي ريزون ديكسبريس اف ام.
سلام فارس.
سلام وعليكم السلام. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à cette invitation. On va se tutoyer durant l'interview. Et aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet très important qui est les écrits professionnels. Il y a même des formations dans ce monde.
Bien sûr.
Qui est comment écrire des emails, comment écrire des rapports, comment choisir ses mots, l'impact des mots. Tous ces sujets qui sont assez challengeants, surtout pour notre audience dans les entreprises. Donc, probablement, il y a des challenges au niveau du vocabulaire. Parfois, on choisit mal les mots. Parfois, on écrit en majuscules. Parfois, on écrit en gras sans se rendre compte qu'on est en train de passer des messages implicites qui laissent libre arbitre et qui laissent la marge de l'interprétation qui peut créer beaucoup de challenges, d'incompréhension.
Oui, qui peut nuire à la communication.
Voilà.
Donc, c'est très important de réfléchir à ces écrits afin qu'ils soient aussi service des ambitions, du message, du projet, du produit que l'on veut vendre. Donc ça se travaille, ça se réfléchit véritablement à l'intérieur d'une stratégie globale. À l'intérieur de cette stratégie, on va choisir d'abord à qui on s'adresse. Et en fonction de la cible, on va choisir un support plutôt qu'un autre. Et dans ce support, on va s'intéresser d'abord aux mots, mais aussi à la mise en page, peut-être aux images qui vont venir compléter le message. Donc tout cet ensemble-là, ça s'apprend, ça se travaille, on peut suivre des formations ou faire appel à des professionnels qui vont venir accompagner le chef d'entreprise, les personnes qui sont en train de monter une start-up ou des étudiants qui sont en train de préparer un mémoire universitaire, par exemple.
Certainement. Les community managers, puisqu'on parle d'actualité, de tendance actuellement, on recrute des community managers et dans le monde entier, les community managers touchent beaucoup d'argent parce que, à part le fait qu'ils maîtrisent les médias sociaux, ils maîtrisent aussi l'art de créer des messages et savoir s'adresser à l'audience et au public. Donc notre session aujourd'hui, ça sera autour du message qui pourrait être adapté sur les médias sociaux, sur d'autres canaux, même aussi sur le papier, sur les écrits dont on a besoin. Donc, commençons petit à petit. On commence par quoi pour pouvoir rédiger un excellent message ?
Déjà, il faut être au clair avec le message ou les deux ou trois informations importantes que l'on veut que le lecteur retienne. Il est très important que le lecteur puisse, une fois qu'il a lu, raconter à d'autres personnes ce qu'il a retenu, qu'il puisse continuer à communiquer sur le projet, sur le produit que l'on veut promouvoir. Donc, quand on choisit véritablement, précisément les informations que l'on veut transmettre, on va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis, et on va choisir un vocabulaire adapté, mais aussi une manière de présenter les choses, une syntaxe, un rythme. Toutes ces informations-là qui vont venir compléter les mots et donner un sens subliminal à ce que l'on a écrit. Et c'est ça qui va faire en sorte que le lecteur se souvienne de ce qu'il a lu, qu'il y ait un impact, qu'il soit marqué.
Y a-t-il dans le monde des écrits professionnels des types d'écrits ? Je pose cette question. Quels sont les types d'écrits professionnels?
Alors, il y a des écrits professionnels qui vont être liés à la communication, à la vente. Donc, on va beaucoup utiliser les réseaux sociaux ou des présentations. Mais ça peut être aussi des écrits professionnels qui vont être utilisés en interne dans une entreprise. Mmh. Tout ce qui est circulaire, les mails, tous les rapports de réunion vont avoir leur importance dans la manière dont ces écrits vont permettre d'ancrer les informations et de permettre que ensuite les collaborateurs aillent tous dans le même sens, partagent une même vision et puissent véritablement coordonner leurs actions. Donc les écrits professionnels vont être à ce moment-là des outils de management, des outils qui vont servir aussi la communication interne.
Donc du point de vue sociologique, comment on perçoit les écrits?
Les écrits sont souvent... Dans les médias, les écrits sont souvent présentés soit d'une manière un petit peu austère, donc on a l'impression qu'il y a beaucoup d'informations et ça nuit au message.
Mmh. Trop de détails, tue le message.
Exactement. Soit à l'extrême, on a une grande utilisation, notamment dans les réseaux sociaux, des citations, des proverbes, parce que, comme on dit, en quelques mots, on a envie de marquer les esprits. Le poids des mots, le choc des photos. Hein, mmh. On a souvent cette expression en tête. Donc, entre les deux, il y a, comme toujours, plein de dégradés de gris qui vont, selon les situations, être pertinents par rapport au public et au message que l'on veut faire passer. Donc il faut toujours viser la clarté, la simplicité, pour que les gens s'en souviennent, tout en gardant en tête la nécessité de véritablement être fidèle au discours de départ. Parfois, quand on travaille avec des startups, il faut faire très attention à être fidèle à la véracité scientifique pour ne pas modifier le discours, ne pas faire penser au lecteur une chose alors que dans la startup, on va vouloir exprimer autre chose. Mmh. Donc, il faut trouver un équilibre entre la précision et la facilité de compréhension.
Y a-t-il un framework ou un process pour pouvoir rédiger et aboutir à un message qu'on veut vraiment exprimer? Parce que le challenge des communicants, c'est ce que je veux dire, c'est pas ce que j'ai accouché ou j'ai couché sur papier et ce n'est pas le même message qui a été interprété.
Alors, c'est vrai que de toute façon, on dit souvent qu'un texte est écrit deux fois, par son auteur et par le lecteur.
D'accord.
Il y a toujours en communication à l'oral comme à l'écrit cette idée qu'il y a une perte d'information.
Une distorsion.
Inévitable. Mais on peut la limiter en étant très adapté à son audience. Si on s'adresse à des scientifiques, si on s'adresse à des étudiants, si on s'adresse à des chefs d'entreprise, à des mères de famille, à des sportifs, on va choisir un vocabulaire. On va choisir aussi... une police, une mise en page qui vont être différents et qui vont attirer le regard. Première chose, c'est connecter le regard, donner envie de lire et ensuite s'attaquer véritablement au contenu pour pouvoir convaincre, argumenter avec précision.
Moi, je lâche un écrit au bout des deux, trois premiers mots,
oui.
Donc une phrase d'attaque.
Exactement. Il faut que le vocabulaire qui va marquer, qui va être adapté à l'interlocuteur, soit visible tout de suite. Donc la mise en page va énormément compter. Mm-hmm. Dans un post Facebook, dans une présentation, dans un slide, lorsqu'on fait une présentation dans une conférence ou dans un congrès, il est très important que le mot que l'on va voir en premier ou l'image porte déjà en partie le message et attire le regard pour connecter et donner envie de connaître la suite.
D'accord. Par rapport aux écrits, à l'emailing, qui est source de conflits malheureusement dans les entreprises, parce qu'on choisit mal nos mots, nos phrases, et parfois, ça dépend de la culture. Par exemple, toi tu viens d'une culture franco-française, et c'est très adapté ici en Tunisie, vu l'historique, et on voit des gens qui écrivent des emails qui sont très dans le détail, beaucoup de paragraphes, et on fournit même de l'effort pour pouvoir lire, et quelque part, ça démotive la personne même de lire cet email, parce que c'est un livre, c'est pas un email.
Exactement.
Et dans la culture anglo-saxonne, parfois on qualifie que les écrits sont très froids et très secs, parce que c'est une phrase. merci de faire le nécessaire, bien oui. reçu, oui. ce genre de... Comment créer cet équilibre entre ces deux cultures différentes ou ces deux écoles d'écrit ?
Alors, déjà pour la première partie, cette tendance à faire des mails très longs et très détaillés, on est nombreux à l'avoir. De la même manière, on a aussi souvent tendance à faire des phrases extrêmement longues.
Oui.
Parce qu'on a beaucoup d'informations en tête, on a à cœur de faire passer toutes les informations de manière exhaustive et on va...
La voix interne, elle est en train de dicter.
Exactement.
Et directement Exactement. Transmettre ça sur le clavier.
Attention, quoi. Tu as oublié ça. Attention, eh oui, mais si je ne leur dis pas cette information, ils ne vont peut-être pas comprendre. Donc on rajoute des informations et on fait parfois des phrases sur plusieurs lignes. On ne sait même plus où est le début, où est la fin. On est perdu. Mais c'est une tendance naturelle. Le plus compliqué, ça reste d'écrire des phrases très courtes, simples d'accès, avec un sujet, un verbe, un complément, et on passe à la suite. Donc ça, ça demande de lire, de relire, de retravailler le texte pour qu'il soit véritablement construit d'une manière beaucoup plus découpée et beaucoup plus simple d'accès, finalement. Donc d'un côté, on veut tout dire, mais en voulant tout dire, finalement, on noie le lecteur. De l'autre côté, on va droit au but, mais en voulant aller droit au but, parfois, on va un petit peu irriter le lecteur. Il faut y mettre les formes aussi, effectivement. Donc, pour trouver cet équilibre entre les deux, il faut parfois relire à voix haute le mail avant de l'envoyer. Le lire à voix haute, c'est aussi se poser la question de ce que l'autre va entendre en le lisant, du temps que ça va lui prendre pour le lire, et donc de l'énergie que ça va lui demander. Pas trop d'énergie, et en même temps, assez d'informations pour pouvoir aller au bout. Donc c'est un équilibre avec ce genre de petits trucs et astuces qui, lorsqu'on est celui qui écrit le mail, on va faire en sorte que le lecteur le lise jusqu'au bout. Combien de fois on dit à un interlocuteur « Ah, mais je ne savais pas que tu m'avais dit ça. Mais si, je te l'ai écrit dans un mail. » Et là, on s'aperçoit que c'était noyé dans plein d'informations. Et du coup, on avait complètement oublié ou même peut-être pas lu l'information.
Donc, il faudrait prioriser les informations,
voilà,
un ordre de
exactement,
priorité.
Exactement. L'importance de la hiérarchie des informations. On ne peut pas tout dire de manière exhaustive. Donc, on va choisir les deux ou trois informations les plus importantes. Celles sans lesquelles le squelette, celles sans lesquelles le mail n'a pas de sens, celles sans lesquelles la présentation n'a pas de sens, le flyers n'aurait pas de sens. Et on va les mettre comme ça au départ dans son texte, comme les trois parties par exemple d'une dissertation, et on va construire autour de ces informations, avec toujours en tête des phrases courtes, très simplement construites.
Ça c'est intéressant. Dans le monde de l'entreprise, il y a les réunions. Et dans les réunions, généralement, on désigne un rapporteur de la séance.
Oui.
Et parfois, on s'aperçoit que le procès-verbal le PV de la réunion, c'est une scène de théâtre.
Oui.
C'est un script, c'est un sketch.
Oui.
Anne-Lise a dit, Monia a dit, Fels a dit.
Exactement.
C'est quoi le meilleur moyen pour avoir des PV efficients, bien écrits, en même temps, en temps pas dans ce dialogue ?
Alors, dans ce genre de moment, il faut que la personne qui prend des notes pendant la réunion et déjà une vision globale de ce qui
de l'ordre du jour
et des enjeux qu'il y a, des enjeux avec par rapport auxquels les sujets sont abordés. Quand on a en tête ces enjeux-là, on va plus facilement donner du sens aux interventions des uns et des autres. On va pouvoir mettre en lumière la manière dont les informations se répondent les unes aux autres. Et plutôt qu'être descriptif, on va être analytique. On va donner du sens et donc encore une fois hiérarchiser, c'est-à-dire qu'on ne va pas écrire tout ce qui est dit, mais on va écrire vraiment le sens profond des paroles des uns et des autres, la manière dont elles vont se compléter. Et c'est ce qui va ensuite permettre d'utiliser ce rapport de réunion de manière efficace dans la vie de l'entreprise. C'est ce qui va faire que les personnes qui ont assisté à la réunion vont véritablement retrouver les informations importantes. Et plus encore, plus important encore, que les personnes qui n'ont pas assisté à la réunion puissent en prendre connaissance et utiliser les informations dans leur pratique professionnelle, dans leur relation avec leurs collaborateurs et dans la gestion des projets.
On terminera tout à l'heure avec quelques astuces, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, je vais m'appuyer un petit peu sur la culture dont tu viens et les subtilités des mots.
Oui.
Les Tunisiens utilisent énormément la langue française dans les échanges. Et parfois, il y a un choix de mots qui n'est pas adéquat. à la situation. Peux-tu partager avec nous quelques subtilités des mots de la langue française qui se retrouvent dans les emails, dans les échanges, dans les PV, mais parfois ils sont, l'interprétation ou la compréhension n'est pas la même.
Alors, dans la langue française, c'est vrai qu'il y a une langue avec beaucoup de vocabulaire, effectivement, beaucoup de nuances, et selon le contexte, le même mot ne va pas avoir le même sens, ne va pas être interprété de la même manière, ça on le sait bien.
Exemple.
Et donc, selon les situations, quand on va dire, dans les formules de politesse qu'on retrouve partout, les formules de courtoisie, quand on va dire « à toutes fins utiles », on va engager l'interlocuteur d'une manière un peu sèche parfois, alors que dans d'autres circonstances, ça va être pris de manière beaucoup plus cordiale. De la même manière, parfois, il y a quelque temps, quand on écrivait « bien à vous » à la fin d'un mail, il y avait quelque chose de très amical, d'une certaine
proximité. Professionnel.
Voilà, exactement. Professionnel. Alors que dans d'autres circonstances, on va y voir quelque chose de beaucoup plus proche, de beaucoup plus amical. Et donc, c'est ça qu'il faut.
Je lisais le cher, par exemple, le cher madame. C'est dans quel contexte vous conseillez, par exemple?
Chère madame, cher monsieur, c'est un contexte où on est vraiment dans la politesse, une sorte de distance qui va être instaurée avec cette personne-là pour montrer du respect, pour montrer qu'on a conscience de la valeur de la personne et en même temps une certaine admiration, un certain intérêt.
Donc, ça fait pas copinage ?
Non, en français, le cher, ça reste quelque chose d'un petit peu...
De cordial.
Très cordial et même très, très poli, qui s'utilise de moins en moins, véritablement. Ou alors dans des circonstances très professionnelles, avec beaucoup de respect.
Sinon, on peut se limiter juste au titre ou à l'attention.
Exactement.
De monsieur...
Exactement.
Ou de madame avec le titre qui suit, et ça c'est important. On va clôturer notre entretien avec quelques astuces, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir réussir ses écrits professionnels.
Alors, pour avoir vraiment des écrits professionnels efficaces, il faut choisir les mots, bien évidemment, avec beaucoup d'attention, beaucoup de précision. Il faut aimer les mots aussi. Il faut aimer faire la différence avec un mot ou un autre. Et donc, parfois, c'est comme si on jonglait. Donc, dans une même phrase, on va changer le mot. Moi, j'utilise beaucoup le dictionnaire des synonymes.
D'accord.
Ça me plaît beaucoup parce qu'un mot en entraîne un autre. Et parfois, ça fait émerger une nouvelle idée. Et ça permet de compléter l'information, de la préciser d'être beaucoup plus en phase avec le lectorat, avec la cible que l'on va toucher. Donc j'aime beaucoup utiliser ça. Et j'aime aussi, comme je le disais tout à l'heure, relire à voix haute ce que j'ai écrit.
Pour ressentir.
Entendre à la fois la mélodie et le rythme.
Oui.
Les deux sont très importants.
Donc les sonorités sont importantes.
Les sonorités sont très importantes, même si c'est de la lecture. Comme beaucoup de gens, je suis sensible parfois aux anaphores. Vous savez, quand on commence toutes les phrases par le même mot, ça donne une sorte de rythme. Il ne faut pas en abuser de ce genre de petite tactique. Mais
certainement, pas de la poésie.
C'est pas de la poésie, mais parfois ça permet d'ancrer l'information, ça permet d'attirer l'attention et de donner quelque chose de beaucoup plus fluide à la lecture. Donc, c'est agréable.
Et faisant très attention aussi aux quotes, aux dictons, aux proverbes qu'on pourrait impliquer un peu partout, à intégrer dans nos écrits, parce que aussi ça pourrait donner du sens ou aussi on part dans leur sujet.
Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Les phrases que l'on va choisir, les slogans que l'on va construire, les images, tout ça doit venir dans une sorte d'équilibre et il ne faut abuser ni des uns ni des autres.
Je terminerai avec un point très classique dans le monde des emails, des écrits, etc. C'est l'utilisation de la majuscule un peu d'une façon aléatoire où on veut consciemment passer un message, mais ça pourrait être perçu comme une communication agressive, majuscule dans toute la phrase, du gras dans toute la phrase, avec du rouge en plus, c'est Achtung, attention, et quelque part c'est une menace.
En fait, si tout est en gras, c'est comme si rien n'était en gras.
Oui.
Donc quand on abuse d'une manière ou d'une autre, soit d'une police, soit d'une couleur, d'un surlignage, ou même des émoticônes, finalement ça perd de son sens complètement. Et c'est toujours cette même question de dosage qui va permettre justement de mettre en valeur exactement l'émotion, l'information, le message que l'on veut mettre en valeur.
Annelise Inwinkel, merci beaucoup pour cet entretien.
Avec grand plaisir.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Invité.
C'est un grand plaisir. Merci, Burhan. Yartik Saha, Aïcha, li kont ma'ana. Talqa au replay, à la Safha Rasmiya, à l'Express FM. Tabouana Zeda, à la www.radioexpressfm.com. Félix, monsieur, la haïkoum, ba'tchoua, et nashat al-akhbar. Nalqa koum, j'ai marge, yom l'ethnin, inshallah, fi usbou' jadid, min carrière à l'Express FM, li djid fil qima, bislema, nesilkul.
Carrière Management.